Salut à tous et bienvenue dans Carrefour du Monde, l'émission de l'actualité internationale vue de manière décalée. Carrefour du Monde, c'est le lundi à 10h à Montréal sur CISM 89.3 FM. C'est aussi le mardi à 13h30 à Bruxelles sur Radio Campus et sur Radio Panique. Carrefour du Monde, c'est également un site internet au www.carrefourdumonde.org. Dans un instant, on retrouve comme chaque 15 jours les revues d'actualité de nos correspondants. De Madrid à Paris en passant par Lausanne et New York, un tour d'horizon de l'actualité avec en toile de fond toujours la guerre en Irak. Dans la deuxième partie de l'émission, on entendra une entrevue de Denis Robert, ce journaliste qui s'est intéressé à Clearstream, un gigantesque mouchard informatique au service de la finance. Voilà pour le programme, nous sommes ensemble pour la prochaine demi-heure. Comme prévu, l'invasion américaine en Irak a atteint son premier objectif qui est de renverser le régime de Saddam Hussein. Les ficelles employées par l'armée la plus puissante du monde n'étaient pas toujours aussi fines qu'on veut le faire croire. Et autour de la gestion de l'après-guerre, l'Amérique n'a visiblement pas l'intention d'être moins arrogante qu'elle l'a été jusqu'ici. À New York, André-Michel Essungu.
Il aura fallu la peur insufflée à doses régulières pour que l'Amérique fasse taire ceux qui sur son sol ne voulaient pas de cette guerre. Il aura donc suffi de brandir depuis des mois la menace d'attaque terroriste et sortir les soldats dans les rues de New York ou Washington, renforcer la sécurité ici et là, mettre sur pied un super ministère de la sécurité. Bref, à l'image du chirurgien usant d'anesthésie avant l'opération, les stratèges de la Maison-Blanche et du Pentagone ont rondement mené leur affaire. Et au bout du compte, tout est pour le mieux en fonction du plan initial. Saddam Hussein et son régime appartiennent désormais au passé. Dans les rues de la millénaire Bagdad, quelques-uns ont chanté des louanges à la bienfaitrice Amérique, libératrice des peuples opprimés, champion du monde libre. Enfin, l'Amérique s'apprête à gérer selon ses intérêts bien compris, un pays qui ne demande pas tant de gratitude pourtant. On en verserait quelques larmes d'émotion et de bonheur si pour seule source d'information, on avait droit qu'aux conférences de presse quotidiennes de l'intraitable Donald Rumsfeld, flanqué du taciturne général Myers ou à celle de l'imperturbable Harry Fleischer. Ces messieurs officiels de la puissance assurent désormais que c'est à la seule Amérique que revient la gestion politique de l'Irak. Après la guerre qu'ils ont été presque seuls à mener. En des termes plus clairs, Washington ne cédera rien du gâteau irakien, qu'on se le dise. Et à ceux qui osent faire les comptes de la guerre qui s'achève, la réponse fuse, allez donc voir ailleurs s'il vous plaît. L'Amérique ne répondra devant personne de crimes dont on l'accuse en Irak. À Genève, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a dû renoncer sur ordre de Washington à enquêter sur les droits de l'homme dans ce pays. Les officiels américains ne tolèrent pas qu'on ose les importuner. Et des journalistes des chaînes de télévision arabes, Al Jazeera et Abu Dhabi TV en ont fait l'expérience, victimes de missiles libérateurs américains. Leur tort est d'avoir tenté de montrer les désastres humains de la guerre au moment où les médias d'Amérique nous présentaient une guerre sans pleurs ni sang. Forte et puissante, l'Amérique victorieuse de Saddam Hussein n'a visiblement pas l'intention de négocier le respect qu'on lui doit. Et si la guerre irakienne, après celle d'Afghanistan, n'était que le début d'un jeu de guerre meurtrier, les moins optimistes parlent du suicide d'un empire fou de sa puissance. André-Michel Essungu, New York, Carrefour du Monde.
Depuis 3 mois, les Espagnols vivent au rythme des tirs croisés que s'échangent le gouvernement de Madrid et l'opposition socialiste. Le grand sujet de discorde concerne la guerre en Irak qui est soutenue par le gouvernement Aznar. Que la guerre soit terminée ou pas, les rues du pays font preuve de la même révolte populaire et la moindre façade est maintenant ornée des affiches « Wanted » avec les photos de Bush et d'Aznar. Et puis la mort de 2 journalistes espagnols à Bagdad a ravivé la protestation dans la péninsule. Une grève générale a eu lieu jeudi 10 avril. À Madrid, Emmanuel Stills.
Le 25 mai, l'Espagne organise ses prochaines élections municipales et régionales. Le scrutin pourrait passer relativement inaperçu s'il ne faisait irruption au beau milieu d'un brouhaha politique d'ampleur exceptionnelle. Avec la Grande-Bretagne et peut-être même encore davantage, l'Espagne est le pays européen dont la politique intérieure a été la plus affectée par la guerre en Irak. Le soutien indéfectible du gouvernement espagnol au projet belliqueux américano-britannique provoque depuis plusieurs mois déjà un véritable raz-de-marée populaire et un déchaînement sans précédent de l'opposition socialiste. Dans la série d'affrontements politiques qui se veulent de plus en plus durs, les derniers épisodes ont stigmatisé l'affaiblissement croissant des forces politiques du Premier ministre José María Aznar. Son parti semble de plus en plus déboussolé face aux avalanches de clichés sanglants en provenance d'Irak. Frappés par la barbarie d'un conflit qu'ils avaient appuyé dans un premier temps, de nombreux élus du Parti populaire retirent leur soutien à la politique du gouvernement et de leur parti. Plus un jour ne passe sans qu'un député, un maire ou un conseiller du Parti populaire ne remette sa démission ou ne se démarque explicitement de la ligne du gouvernement. Sentant venir le danger, Aznar en personne a adressé deux avertissements sous forme de menaces à ses concitoyens et à l'opposition. Qu'il sache que si le Parti socialiste parvenait à nouveau au pouvoir, cela signifierait la fin de l'Espagne. Le nouveau caudillo espagnol accuse en effet les socialistes et les nationalistes de monter un complot visant à mettre en œuvre la division de l'Espagne et l'éclatement de l'unité démocratique. Quant aux leaders de gauche, le Premier ministre les accuse personnellement de diriger des attentats contre son parti. Les populaires ont établi une liste de 80 élus accusés d'organiser et de participer à des actes de violence contre des sièges et des militants du Parti populaire. Dans la plupart des cas, ces accusations ne résistent pas à l'analyse, puisque les personnes mises en cause soit participaient simplement à des manifestations pacifistes contre la guerre, soit elles intervenaient et elles s'interposaient afin de contenir des actes de vandalisme de la part d'autres manifestants. Mais ces accusations obscènes révèlent l'état de crispation dans lequel est plongé le Parti populaire. Aznar veut resserrer les rangs, le mouvement doit faire bloc, en élaguant toute incertitude chez ses membres. Le rôle de victime est bien entendu un recours providentiel dans ce cas-là. La tactique permet non seulement de criminaliser l'opposition, mais surtout d'éviter le débat de fond sur la guerre, les accusations remplaçant l'argumentation et la justification. En quelque sorte, le Parti populaire semble avoir oublié que c'est bien lui qui détient le pouvoir, à la majorité absolue qui plus est, et qu'il doit répondre de la politique menée au nom de l'Espagne face à ses citoyens. Bref, qu'il ne peut pas tout simplement se contenter de répéter, comme il le fait depuis 4 mois, que Saddam Hussein est très très méchant, et lorsqu'on s'avise de demander plus d'explications, de répéter qu'il est très 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 méchant. Un véritable dialogue de sourds semble s'être installé, et nul ne sait sur quelle base le dialogue politique va pouvoir être réinstauré en Espagne. Pour le moment, les divergences sont trop profondes et trop violentes. Une anecdote significative, la ministre des Affaires étrangères a de nouveau saisi l'occasion de démontrer à quel point les préoccupations du gouvernement paraissent triviales et scandaleuses au regard des mensonges de cadavres irakiens. Ana Palacio s'est tout simplement réjouie de la baisse des cours du pétrole et de ses effets bénéfiques pour les ménages espagnols. Autrement dit, le gouvernement s'enferme dans sa bulle d'autosatisfaction. Reste à voir si les électeurs y entreront, puisque ces élections, aussi locales soient-elles, rendront tout de même un verdict significatif sur la relation entre les Espagnols et José María Aznar. De Madrid, Emmanuel Stales pour Carrefour du Monde.
La France s'inquiète de ne pas pouvoir participer au butin irakien aux côtés des Américains et des Britanniques. Néanmoins, cette guerre en Irak est utile au gouvernement français. Elle permet de faire adopter de nombreuses réformes. Des explications de Nicolas Willems à Paris.
L'opposition de Jacques Chirac à l'agression américano-britannique contre l'Irak a permis au président français de surfer dans les sondages. Jamais la cote de popularité de Chirac n'a été aussi haute. Pourtant, cette opposition à la guerre du gouvernement français joue également le rôle d'écran de fumée. La France subit sa plus grosse crise sociale depuis des décennies. Les libertés individuelles ont fortement régressé suite à la politique sévère de Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur. Il y a également cette fameuse réforme des scrutins de Jean-Pierre Raffarin, une réforme qui a été vivement critiquée par l'opposition, mais aussi par certains membres de la majorité UMP. Les députés ont finalement adopté par un vote à main levée la proposition du Premier ministre. Cette proposition de Raffarin modifie l'article 4 de cette loi dite de réforme des scrutins. La modification adoptée fixe à 10% des exprimés et non plus des inscrits le seuil permettant à une liste de se maintenir au second tour des élections régionales. Si la majorité UMP de droite a finalement adopté les rectifications de ce texte, les partis de l'opposition socialiste, communiste et vert ont rejeté ce texte. L'opposition considère que cette loi freine et défavorise les petits partis. Par ailleurs, il existe déjà une loi de ce type. Beaucoup estiment que Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin ont surtout voulu changer les règles du jeu politique par cette loi. Il est certain que ce texte constitue la mort d'un tas de petits partis. Autre événement de la politique intérieure française, le projet de réforme des institutions en Corse, un projet qui a été lancé par Jean-Pierre Raffarin et son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Un référendum sera organisé le 6 juillet prochain pour donner ce statut particulier à l'île. Néanmoins, de nombreux élus corses et les indépendantistes sont déçus par ce projet de réforme du statut de la Corse. Ce projet intervient aussi au moment où les violences et les attentats se poursuivent sur l'île. Le FLNC, Union des combattants, a même confirmé récemment dans un communiqué une série d'attentats perpétrés sur l'île et qui ont touché les institutions de la République en Corse. Paris, Nicolas Willems pour Carrefour du Monde.
La guerre en Irak fait également des vagues dans la politique suisse. Mais dans ce pays neutre et dépositaire des conventions de Genève, il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou non envoyer des soldats, ni dans quelle mesure le pays pourrait participer à la reconstruction de l'Irak. Laurent Dufour.
Le premier acte se joue au ministère des Affaires étrangères. La nouvelle ministre en poste depuis le début de l'année est une adepte de la diplomatie publique. Ce concept qui lui est cher signifie faire un maximum de publicité autour des actions du département. La ministre Micheline Calmiret a décidé un jour, sans consulter ses collègues du gouvernement, qu'elle allait publier sur Internet une liste de tous les soldats et civils irakiens et coalisés morts au combat. Selon elle, c'était du devoir du pays dépositaire des conventions de Genève. Évidemment, l'idée a mal passé. Irresponsable, a dit la droite à l'idée de la ministre socialiste. Irréaliste, s'est exclamé le CICR lui-même, car il est impossible de trouver des sources fiables. Deux jours après son coup d'éclat médiatique, la ministre a fait marche arrière. Acte 2, cette même ministre a été officiellement désavouée par une commission pour ses coups d'éclat. Il faut dire qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. L'acte 3, c'est la société civile qui manifeste son opposition à la guerre. Des manifs qui ont eu lieu dans plusieurs villes, mais notamment devant le siège de l'entreprise RUAG. RUAG, une entreprise qui fabrique des pièces d'armement et autour de laquelle règne un certain flou. Ce sont en fait les directives du ministère de l'économie qui n'avaient pas la clarté souhaitée d'un pays neutre au sujet de l'envoi de matériel militaire aux belligérants durant le conflit irakien. Acte 4, la neutralité justement est brandie comme valeur suprême par la droite ultra-conservatrice. Celle-ci trouve la réforme de l'armée suisse, qui est soumise prochainement au vote, trop autant compatible et donc inconciliable avec la neutralité suisse. On parle de la guerre, mais pas seulement, il y a aussi le prochain sommet du G8 qui fait couler beaucoup d'encre en Suisse. Ce sommet aura lieu à Évian du 1er au 3 juin. Évian, c'est en France, mais c'est juste en face de Lausanne. Et il y a le lac Léman entre deux, alors le sommet, les Suisses ne l'ont pas voulu, mais ils en paient les conséquences. Financière d'abord, la Suisse participera largement aux frais liés à la sécurité du sommet. Par ailleurs, les antimondialistes ont promis de venir manifester en Suisse. Alors, la police est-elle prête, se demande-t-on ici? En tout cas, elle s'équipe, mais pour ce qui est de faire face avec plus de professionnalisme qu'à Gênes, on se pose des questions. Surtout après qu'une manifestante anti-OMC a été sérieusement blessée sous l'œil par une balle colorante de la police genevoise, alors que la manifestation se déroulait dans le calme. L'affaire, qui remonte maintenant à 2 semaines, a conduit à la démission du chef de la police genevoise, et on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Lausanne, Laurent Dufour, Carrefour du Monde.
C'est ainsi que nous terminons ces revues d'actualité. Dans un instant, vous retrouverez la partie magazine qui est consacrée cette semaine à Clearstream. Clearstream est un programme informatique qui est consacré aux finances mondiales. Pour le journaliste Denis Robert, c'est aussi la plus grande machine à laver l'argent sale. Avec son livre Révélation, Denis Robert explique les mécanismes de la haute finance. Cet ancien journaliste de Libération dévoile les dessous de certains scandales politico-financiers et leur traitement dans la presse. Clearstream enregistre toutes les transactions bancaires de la planète. Cette gigantesque usine à devises est impliquée dans de multiples opérations de blanchiment. Denis Robert est interrogé par Olivier Témence d'Alter Echo.
Quand on a un outil aussi incroyablement fabriqué que Clearstream pour dissimuler des transferts ou des identités de clients, on l'utilise. Et c'est pas étonnant finalement, si on réfléchit un peu, qu'on retrouve dans Clearstream, Réunion, la banque noire de Elf, ou une vingtaine de banques citées dans des rapports de police américaine ou français comme étant proches d'Al-Qaïda. Donc il n'y a pas que ça. On retrouve aussi Panorlite, qui est la plus grosse scandale d'assurance vie en France. Et moi-même, dans les listes de comptes, je suis sûr que j'ai retrouvé un dixième de ce qui existe réellement, parce que je ne suis pas un assidu de ces affaires-là, et qu'il y a des noms qui me sautent aux yeux. Mais j'imagine que si des enquêteurs ou des initiés mettent le nez dans ces comptes, ils verront d'autres perles, quoi. On retrouve énormément j'ai compté 45 pays, 45 paradis fiscaux présents dans Clearstream. Donc ça représente des milliers de comptes, peut-être, je sais pas, 7-8 000 comptes ouverts dans des paradis fiscaux. Et on voit bien là que Clearstream joue un vrai rôle d'activateur et de pompe pour envoyer l'argent dans ces lieux-là. Et ce que je trouve aussi intéressant sur le fond, et ça c'est une erreur que commettent beaucoup de journalistes ou de gens qui s'intéressent à ces questions, ils pensent que c'est en allant fouiller dans les paradis fiscaux qu'on va trouver la solution. Mais c'est absolument pas à Grand Caïman ou au Barbade ou à Jersey qu'on trouvera la solution de ces problèmes, puisque ce sont des États qui protègent et des systèmes judiciaires qui protègent ces secrets bancaires. Par contre, ce que je pense, c'est que le moment où ces financiers sont vulnérables, ceux qui transfèrent ces fonds, c'est pendant le temps du transport, et pas au moment où ils sont dans les comptes des coffres-forts numérotés de ces paradis fiscaux. Mmh. Et cette vulnérabilité, c'est des outils comme Clearstream. Et je pense que Clearstream, comme Euroclear à un autre niveau, qui est donc la multinationale qui est implantée en Belgique, sont un peu les talons d'Achille de ce libéralisme.
Est-ce que vous pensez, on se rend bien compte évidemment que cette affaire est gigantesque, qu'elle peut vraiment déstabiliser la finance et à travers ça l'économie mondiale, est-ce que vous pensez que cette affaire sur laquelle vous travaillez depuis plusieurs années et que vous essayez de jeter dans l'espace public depuis bien 2 ans, est-ce que vous pensez que cette affaire peut éclater?
J'avoue que je sais pas, quand je me suis lancé là-dedans, je savais pas que ça allait être aussi gros, et qu'en face de moi, il y aurait autant de forces d'inertie. Et en fait, je me suis rendu compte que mes premiers alliés, en dehors de quelques journalistes qui ont compris le truc et qui y travaillent ou qui ont travaillé un peu sur le sujet, ça a été des politiques. Par exemple, en France, ça a été Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, François Daubert, ou les 15 ou 16 parlementaires de gauche et de droite qui étaient dans la mission d'information sur le blanchiment. Et ce que j'ai compte, c'est que chez vous, dans votre pays, il y a des premiers signes encourageants venant de sénateurs comme Cornille ou Morel, ou aussi vous avez un ministre qui s'appelle Jean-Jacques Vizard, c'est des gens qui ont été assez tôt sensibilisés à ces questions. Et ce que j'espère vraiment, c'est qu'une mission d'enquête pourra se constituer dans votre pays, et que, parce qu'il n'y a que par ce type de biais qu'on arrivera à freiner et à enrayer un peu ces phénomènes. Et il faudrait quand même faire la lumière sur ces questions, parce que c'est un peu trop facile de laisser aux seuls journalistes ou écrivains comme moi le soin de se cogner à ces problèmes, quoi. Mon problème d'aujourd'hui est de trouver des relais à la fois chez les journalistes, mais aussi chez les politiques et aussi chez les juges. Et ce qui fait que je me sens assez serein, c'est que les livres et les films font leur travail. J'ai jamais eu autant de réactions que sur ce film-là, qui a fait un vrai carton d'audience à Canal+, et qui maintenant se diffuse, les cassettes se dupliquent à un rythme important, et il y a tout un... Je vois bien, il y a des débats qui s'organisent, les choses commencent ça se propage, le savoir se propage, et ça devient de plus en plus difficile pour la multinationale ou pour les banquiers d'enrayer tout ça.
Vous parlez d'appui des politiques, mais les politiques c'est bien, ceux qui sont au pouvoir c'est évidemment encore mieux. Alors là-dessus, il y a un peu deux deux optiques, c'est-à-dire que certains disent « Ah, les gouvernements sont complètement dépassés aujourd'hui par le monde économique, ils n'ont plus rien à dire », et d'autres, ça ce serait un peu le discours attaque, disons, et plus à gauche, on trouve des gens qui disent « Mais non, pas du tout, les gouvernements se sont laissés déposséder de leur pouvoir, mais s'ils voulaient le prendre, ils pourraient le prendre, simplement, ils font partie de ce même monde économique, ils siègent dans des conseils d'administration, etc. » Donc finalement, ils ne sont pas victimes, mais complices. Quel est votre avis là-dessus ?
Moi, je suis plutôt sur ce que vous avez dit en second, c'est-à-dire que l'attaque dit aussi un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que des outils comme ça sont constitués contre les États et que les politiques ont gardé passer les trains, quoi. Alors, au départ, il y a beaucoup de compromissions, parce que quand on regarde ce qui est assez troublant, je prends l'exemple du Luxembourg, la plupart, j'allais dire tous les politiques luxembourgeois, sont dans des conseils d'administration de banques, où ont leurs épouses ou leurs parents dans des banques et tout, donc il y a une compromission totale. En France aussi, on voit beaucoup de politiques liées, le lobby bancaire, et c'est vraiment le pouvoir, quoi. Et donc s'attaquer à... C'est le dernier lieu ultime du pouvoir, je pense que c'est la banque aujourd'hui. Et donc les banques ont créé des outils qui sont constitués en dehors des États, des outils un peu apatrides, mais aussi contre les États. Parce qu'on voit bien, quand on réfléchit à ces questions-là, que ceux qui sont les premiers lésés dans ce type d'affaires, ce sont les contribuables. Ou les consommateurs, mais en tout cas les citoyens. Et que pour reprendre le pouvoir sur la finance, c'est vraiment pas une partie de plaisir, ça va être très compliqué mais je pense que de toute manière il y a une espèce de rythme effréné en ce moment, on l'a vu avec les affaires américaines et on l'a vu d'ailleurs avec quelques affaires en France ou même en Belgique, on voit bien là que ça prend parfois des proportions importantes et que en ce moment il y a une crise de l'emploi, on essaie de je suis pas un assidu des questions belges, mais par exemple en Lorraine où j'habite, il y a de plus en plus de fermetures d'usines, il y a une crise qui est latente, quoi. Alors moi, il y a une guerre en Irak présupposée qui endort un petit peu tout ça, mais la situation devient compliquée du fait justement de cette mainmise des fonds de pension ou des actionnaires et des financiers sur l'industrie et sur l'économie. On crée plus trop d'emplois en ce moment. Il n'y a plus de réinvestissement dans l'outil de travail. Il y a du gain à court terme, quoi. Voilà. Et puis il y a de l'évasion de capital. Et l'économie grise, ce que j'appelle l'économie grise, semble avoir pris le pas sur l'économie. Il n'y a plus d'économie blanche ou noire. Il n'y a plus le crime organisé d'un côté et l'État de l'autre ou des sociétés saines de l'autre. Ce qui est compliqué en ce moment, c'est qu'on n'est jamais sûr de. D'abord, on ne peut plus avoir confiance aux comptes publiés par les entreprises. On l'a vu par exemple en France, c'était le procès sur le Crédit Lyonnais a été édifiant, quoi, pour ça. Et puis ensuite, on peut se poser la question, même sur des sociétés au CAC 40, par exemple en France, on peut se demander qui est l'actionnariat. Et il y a des tas d'exemples où on voit maintenant de plus en plus, par exemple, de sociétés russes qui, via des sociétés écrans ou des sociétés suisses, rentrent dans des entreprises et blanchissent quelque part leurs fonds grâce à ça. Mais ça crée aussi des économies artificielles et très particulières.
C'est avec Denis Robert que nous clôturons cette édition de Carrefour du Monde. Merci à tous nos correspondants, Emmanuel Stils à Madrid, André-Michel Essungu à New York, Laurent Dufour à Lausanne et Nicolas Willems à Paris. L'émission cette semaine vous est présentée de Montréal par Clarisse Erignat. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos archives et un tas d'infos sur notre site internet carrefourdumonde.org. A très bientôt sur les ondes de CISM, Radio Campus et Radio Panique. Bonne quinzaine !